Pidis fut un homme de réforme, un homme qui avait non seulement des idées, mais qui avait la volonté politique de les mener à bien. Ainsi, il a réformé le droit canonique. Et nous avons eu donc ce premier code du droit canonique de toute l'histoire de l'Église, promulgué en 1917. Ensuite, nous avons la réforme de la Curie romaine, parce que la Curie romaine n'avait pas changé pratiquement, sauf quelques détails, depuis 1588, sous Sixte Quint. Ensuite, il a réformé sur le plan liturgique le cycle des dimanches, la musique liturgique, le chant liturgique. Sur le plan pastoral, nous avons l'encouragement à l'action catholique, la formation catéchistique des enfants, des jeunes et des adultes, la formation des prêtres, la réforme des séminaires. Enfin, tout un ensemble de mesures. Et alors, celle qui est encore tout à fait actuelle, c'est ce qu'on appelait la communion précoce des enfants. Être admis à la première communion à partir de l'âge de 7 ans. Le pape, sur le plan de la théologie, était un pape certainement conservateur. Mais il était avant tout un pasteur d'âme. Et c'est pour cette raison qu'il a été profondément réformateur. On aurait pu l'appeler alors un évêque des périphéries, pour reprendre une expression du pape François.
Un pape des périphéries, un pape simple, peu enclin au protocole. On peut y voir des similitudes avec le pape François ?
Oh, il y a certainement des similitudes. La première, c'est que lorsqu'il a dû prendre l'appartement du pape, il a refusé. Et il est passé donc de la deuxième loggia, du deuxième étage du palais apostolique, au troisième, où il a fait aménager l'appartement dans lequel le pape François n'a pas voulu loger. Il y a des similitudes, la volonté de réformer la curie, mais pas réformer pour réformer, réformer pour que la curie corresponde davantage à sa mission, qui est une mission de service, le service de toute l'Église.
Peut-on considérer que Pidis est le pape qui est à l'origine du rapprochement entre l'Italie et le Saint-Siège ?
Alors, certainement que avec Pidis, il y a là un changement, au moins dans les conceptions. Pie IX et Léon XIII sont restés donc sur la position d'avoir été spoliés des États pontificaux. Pidis réaffirme ce qui correspond à l'essence même de l'Église, à tous ses devoirs et à ses droits. Mais il est conscient que l'on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, Pidis, arrivé à 1914, approche des 80 ans, il va mourir 2 semaines après le déclenchement des hostilités. Il y aura ensuite la Première Guerre mondiale, et pratiquement Benoît XV n'aura pas le temps d'intervenir dans ce domaine. Ce sera le deuxième successeur de Pie X, Pie XI, à porter la réconciliation officielle entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie.
Vous venez de l'évoquer, Pie X était profondément marqué par les prémices de la Première Guerre mondiale. Il a lancé un appel vibrant dans son exhortation Dum Europa. C'est quelque chose qui marque aussi son pontificat.
Certainement que l'éclatement de la Première Guerre mondiale a hâté la mort du pape. Ce choc a été considérable, car à la différence des chefs d'État et de nombreuses populations où les sentiments nationalistes étaient exacerbés, le pape a eu le pressentiment que la guerre qui commençait serait une guerre terrible. Tandis que la plupart des pays qui sont partis en guerre avec la certitude de la victoire, avec la certitude que ce serait une guerre de mouvement, avec la certitude que ce serait une guerre brève. Et ils se sont trompés sur tous les plans. Eh bien, on peut penser que Saint Pidis a eu la perception que cette guerre, ce conflit, serait un tournant considérable. Et de fait, on peut dire que le XIXe siècle, avec la belle époque, car il a vécu, il a été pape au moment de ce qu'on appelait la belle époque, c'est la fin du XIXe siècle avec la Première Guerre mondiale.
Qu'est-ce qui véritablement a marqué le pontificat de Pie X ?
C'est certainement un grand mouvement de renouveau de l'Église. Instaurer toute chose dans le Christ, contribuer au renouveau de la vie chrétienne dans les personnes et dans les communautés. Et n'oublions pas que c'est à cette époque-là que nous avons un grand renouveau aussi du recrutement sacerdotal, de la formation des prêtres, où nous avons à l'époque en France des diocèses avec des vingtaines, des trentaines d'ordinations par an. C'est un pontificat qui a été marqué par des fruits spirituels et de vie ecclésiale absolument extraordinaires.